rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous, le magazine de la bonne soirée. En deux temps et à deux vitesses, l'actualité et la musique live en première partie, les archives extraordinaires de France Inter en deuxième heure. L'actu, c'est le Brexit, dur ou mou? Toujours retardé, aura-t-il lieu le 31 octobre? Rien n'est moins sûr. No deal, backstop, suspension du Parlement, élection anticipée voulue par Boris Johnson, retoquée par le Parlement. Et dans cette histoire, que faire des Irlandais de Gibraltar, de Chypre? Que vont devenir les agriculteurs français et l'économie allemande? Oui, parce que le Brexit engage tout cela. Brexit, rien ne va plus, un père et passe. Ça, c'est mon titre, Christophe. Ouais. Bien sûr, les vôtres sont meilleurs.
Non, moi, j'en ai quelques-uns. Il y a un titre de Virginie Rousic, Brexit or not Brexit, pour l'interrogation.
Très shakespearienne,
oui,
Virginie.
Elle est assez shakespearienne dans la vie. Moi, j'avais pensé Brexit alors. Sinon, j'ai Brexit on y soit qui mal y pense, pour l'interrogation. Ou alors, last Brexit to Brooklyn, qui était plus fort, à mon avis.
Qui ne veut absolument rien dire.
Carrie au bal du Brexit, qui est bien aussi. Et je terminerai par Brexitville, la maison de l'horreur, pour l'interrogation. Voilà, c'est des possibilités.
L'actualité musicale me sera beaucoup plus calme, quoique, Mario Guilbeault.
Non, pas du tout, c'est une avant-première, comme on les aime, ici au NRV. Jeanne Chéral sera notre invitée live ce soir et demain, pour dévoiler, piano-voix, quelques titres de son nouvel et excellent album, L'An 40.
On restera en musique en deuxième heure avec le NRV La Suite, France Inter, plus de Black Session, l'émission live de Bernard Lenoir entre 92 et 2011. Retour sur une décennie de concerts libres à tous les sens du terme. Deuxième épisode ce soir avec Pulp, les héros de la Britpop pour leur Black Session du 30 octobre 1995. Ce sera engagé, ce sera dansant. Alors le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et permettez-moi, comme à chaque fois, de vous présenter vos invités. Et les miens aussi, Christophe Bonsigny. Allez, je commence par Catherine Mathieu. C'est vrai, complètement. Économiste, vous êtes spécialiste de la Grande-Bretagne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Emmanuel Avril, vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université Paris 3 et co-auteur de « Où va le Royaume-Uni ?» L'unite, non pas du tout. Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après, aux éditions Odile Jacob. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Entre vous deux, il y a Sacha Mitchell, vous êtes journaliste franco-britannique au Courrier International avec un nouveau numéro titré « Brexit, le clash ». D'où la présence de, d'où votre présence ce soir. Bonsoir,
bonsoir
à vous.
Et ravi.
Et enfin, entre moi-même et vous, Christophe Bourseiller.
Tout à fait. Donc bien entouré.
Voilà, c'est Guillaume Bigot. C'est notre chouchou, en fait. C'est pour ça qu'on l'a mis entre nous deux. Essayiste, membre du comité Les Orwelliens et directeur général de l'IPAG Business School.
C'est en anglais dans le texte, ça tombe très bien.
C'est parfait. Et il sera en anglais, ce...
I could.
C'est éditorial.
I would like to, but I don't think it would be a good idea because we are on the French radio, as you know, probably. Bon, alors, donc, pardon, donc, on y va. Donc, psychose d'un côté, psychose de l'autre. Que se passerait-il, Laurent, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne sans accord? L'apocalypse, la crise, la pauvreté, l'écroulement, l'éclatement de la Grande-Bretagne, disent les uns. Rien du tout, tout sera comme avant, disent les autres. Alors pourquoi tant d'inquiétudes et tant d'angoisses? Le départ des grandes entreprises, la sécession de l'Écosse, le retour de la crise irlandaise, la vassalisation de l'Angleterre entre les mains exclusives des États-Unis? Ce sont les spectres, Laurent, qui peuplent nos angoisses collectives, enfin surtout les vôtres et les miennes, bien sûr. Et pourtant, est-il possible et envisageable que la Grande-Bretagne revienne à l'époque, que la Grande-Bretagne, veux-je dire, revienne à l'époque antérieure où l'Union européenne n'existait pas? À cette époque pas si lointaine, appelons-la le XXe siècle, l'Angleterre libérale commerçait en toute tranquillité avec le reste du monde. Pourquoi le retour à l'état antérieur, donc, génère-t-il une angoisse de fin du monde? Emmanuel Avril, vous co-signez avec Pauline Schnapper « Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après ?» J'ai envie de vous demander, pour démarrer cette émission, « Où va Boris Johnson ?» Il souhaite un Brexit sans accord le 31 octobre. Mais pourquoi sortir sans accord ?
Alors, est-ce qu'il souhaite vraiment un Brexit sans accord ? Il dit qu'il souhaite un Brexit sans accord, principalement parce que il semble extrêmement difficile de trouver un accord. Le Premier ministre précédent en a proposé un, il a été rejeté trois fois.
Par le Parlement britannique.
Exactement. Donc Boris Johnson n'est absolument pas en position de penser qu'il serait capable de proposer quelque chose d'acceptable.
Mais il a l'air de considérer qu'un Brexit sans accord est une possibilité envisageable, Catherine Mathieu.
Oui, mais peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, Emmanuel Avril, je dirais qu'en fait, Boris Johnson souhaite un Brexit avec accord. C'est en tout cas ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il martèle à chaque fois qu'il parle du Brexit. Il souhaite un accord, et ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a pas d'accord qui est obtenu avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre, ça ne sera pas de sa responsabilité à lui, mais de celle de l'Union européenne. Ce qu'essaye de négocier depuis plusieurs semaines Boris Johnson, c'est ce fameux backstop, ce fameux filet de sécurité
provisoire,
qui est prévu provisoire, exactement,
qui pour, permet éviter, quoi pour éviter.
Oui, donc pour éviter le retour d'une frontière physique
entre l'Irlande
du Nord et la République d'Irlande. Ouais. En cas de Brexit sans accord. Puisqu'à ce moment-là, en principe, il faudrait réinstaurer des droits de douane, faire des contrôles aux frontières. Ça, personne ne le souhaite,
ni lui,
du côté irlandais, ouais, ni du côté britannique, ni Boris Johnson. Mais c'est vraiment sur ce point-là que les négociations achoppent avec les négociateurs européens depuis des mois. Et donc, Boris Johnson continue aujourd'hui à dire « Je vais négocier un accord avec l'Union européenne. Le 17 et le 18 octobre prochain, il y aura un sommet européen. J'irai négocier et je ferai tout pour avoir un accord avant le 31 octobre. S'il n'y a pas d'accord, nous sortirons. » Mais ça n'est pas son premier choix.
Comment vous pensez cette situation, vous, Guillaume Migaud ?
D'abord, je pense qu'il y a deux facteurs qui éclairent cette situation, sinon qui devient illisible et absurde. On parlait tout à l'heure de tragicomédie, mais quels sont ces deux facteurs ? Vraiment prendre les coordonnées du problème. Le premier, c'est que l'Union européenne ne veut pas qu'on sorte de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est on y soit qui mal y vote.
Même si voilà, il commence à se faire l'idée quand même.
Non, l'Union européenne veut une démocratie sans le peuple, contre le peuple. Alors, si le peuple est d'accord, ça va. Si le peuple n'est pas d'accord, on fait revoter jusqu'à ce que. Donc ça, c'est vraiment une position de principe. Alors, dans le détail, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il y a cette question du caractère indissociable des différentes libertés d'après l'Union européenne et d'après les traités européens. Et donc, c'est ça qui va créer cette pierre d'achoppement du backstop. Donc voilà la première coordonnée du problème. Sinon, on ne comprend rien. Deuxième coordonnée du problème, il y a ce divorce entre le peuple et les élites et les classes dirigeantes. Élite, j'aime pas parce que c'est un mot valorisant, élite. Là, c'est pas vraiment des élites, c'est une espèce d'élite un peu qui s'affaisse. Les classes dirigeantes britanniques sont également dans une sorte de procédure de divorce avec la population. Alors, pas toute la population, il faut raison garder, hein. C'est une partie du corps électoral, mais néanmoins majoritaire en Grande-Bretagne. Et cette classe dirigeante, elle est surreprésentée au Parlement. Et elle ne veut pas du Brexit. Et donc, tous les prétextes sont bons. Voilà pourquoi il y a cette situation ubuesque.
Vous êtes d'accord, Sacha Mitchell, sur le fait que l'Union européenne ne veut pas du Brexit ?
Alors au début, après le référendum de 2016, ça a pu être le cas. Désormais, les sons de cloche sont un petit peu différents.
Tout le monde se prépare à cette éventualité.
Tout le monde
quand même
se prépare à cette éventualité. En première ligne,
on fait tout pour bloquer Boris Johnson quand même.
Eh bien, l'Irlande,
à l'intérieur et à l'extérieur.
À l'intérieur, il y a deux choses qui se sont passées ces dernières 24 heures, ces derniers jours. Donc, dimanche, Jean-Yves Le Drian a dit que la France, elle pouvait envisager, en tout cas, de mettre son veto à une nouvelle extension de la période des négociations. Ça semble hautement improbable parce que la France ne prendra pas elle seule la responsabilité de botter le Royaume-Uni hors de l'Union européenne sans accord. Sachant qu'en plus, en première ligne, on a les Irlandais, justement les Irlandais qui eux sont farouchement pro-européens, mais les échos qu'on a en tout cas dans la presse irlandaise, par exemple la Courrier International, c'est que les Irlandais sont tout à fait résolus. Ils sont résignés, en tout cas même à l'éventualité d'un Brexit sans accord. Et donc tout le monde s'y prépare, tout le monde l'a intégré, je pense. Reste à savoir quand est-ce que ça va se passer, en fait.
Oui, non, je te réponds à ça parce qu'en fait la question est de savoir pourquoi il n'y a pas d'accord. Et on en revient à ce backstop. Alors après, c'est une situation effectivement très complexe d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique.
Et symbolique aussi.
Alors symbolique, c'est toute l'affaire, précisément. Ouais. C'est très politique. Mais vous savez, il faut en revenir à un principe simple qui était énoncé par les Romains. Les Romains disaient « de minimis non curat praetor », c'est-à-dire des détails, les chefs ne se soucient pas. Eh bien, le peuple, c'est le chef, le peuple a décidé que. Alors après, maintenant, ils ont qu'à se débrouiller en ce qui concerne les détails. Là où il y a véritablement une pierre d'achoppement, c'est sur la question du backstop. Or, qui pose problème avec le backstop ? C'est bien évidemment l'Union européenne.
L'Union européenne. Alors juste, hier quand même, revenons à l'actualité. Hier, il y a une situation absolument ubuesque. Le Parlement est suspendu depuis hier soir pour 5 semaines. Voilà ce qui s'est passé. Une passe d'armes entre Jeremy Corbyn, donc le leader du Parti travailliste, et Boris Johnson, toujours Premier ministre. We're eager.
On les attend avec impatience, ces élections. Mais si enthousiaste que l'on soit, on n'est pas prêt à prendre le risque d'infliger le désastre d'un Brexit sans accord à nos communautés en mettant en péril nos emplois, nos services publics et nos droits.
Quels que soient les dispositifs que ce Parlement invente pour me lier les mains, j'avancerai à grands pas pour conclure un accord qui soit dans l'intérêt de la nation.
Emmanuel Avril, dans l'intérêt de la nation, véritablement, comment vous avez regardé la situation d'hier ?
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis le référendum et même la décision même d'organiser un référendum, on voit clairement que les intérêts partisans ont pris le pas sur l'intérêt national. Et donc, c'est vraiment ça qu'on voit se jouer depuis plusieurs années et qui a continué de se jouer hier.
Mais la démocratie est en danger, là. Quand on entend ça, quand on voit le Parlement qui explose, le Parlement qui, donc, maintenant, pendant 5 semaines, va être bâillonné, puisque Boris Johnson a demandé une suspension des travaux parlementaires pour permettre, justement, ce fameux Brexit. Quand on voit la colère des gens, la rage, et tout juste s'ils se tapent pas dessus.
Les démissions, hier, le speaker de la Chambre, John Bercow, a annoncé sa démission. Il y avait eu la ministre du Travail, des milliers d'Anglais dans la rue.
Le frère de Boris Johnson qui le désavoue.
Il y a une grande inquiétude face à ce coup de force de l'exécutif et la réalisation qu'il n'y a en fait pas de garde-fou dans la Constitution.
Est-ce que c'est un coup de force de l'exécutif ? Parce que ce que dit Boris Johnson, il dit « le peuple m'a donné raison puisque par 51,6 le Brexit a été voté et finalement le Parlement va contre la volonté du peuple en empêchant la réalisation du Brexit ».
Oui, c'est un argument qu'on peut tout à fait entendre. Ce qui est quand même très dommageable, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de tentative ou même de volonté de la part des gouvernements conservateurs pour essayer de réconcilier les deux camps ou d'obtenir le consentement de la partie de la population qui est quand même assez conséquente, qui ne voulait pas du Brexit. Donc il y a eu quand même une tendance à verser dans un discours populiste le peuple contre la volonté.
Tout à Sacha fait. Michel. Juste pour rappeler, la prorogation, la suspension du Parlement, cet outil, il est tout à fait... c'est un outil standard qui est utilisé en général chaque année pour refermer une session parlementaire. Il faut savoir que la session en cours dure depuis les législatives de 2017. C'est la plus longue depuis le XVIIe siècle. Là, ce qui la caractérise, c'est vraiment sa longueur. D'habitude, ces prorogations, ces suspensions, elles durent quelques jours, une semaine, pour pouvoir tourner la page d'un cycle parlementaire et en ouvrir un nouveau. En tout cas, c'est ce que dit Boris Johnson. Avant moi, il y a eu Theresa May. Maintenant, on referme la page Theresa May et je vais présenter, par un discours de la reine, le 14 octobre, mon propre programme pour le pays, y compris sur le Brexit. Donc effectivement, ça pose quelques questions d'un point de vue moral et en tout cas démocratique, mais c'est un outil et en plus qui semble, à l'heure actuelle en tout cas, se retourner un petit peu contre lui.
Catherine Mathieu.
Ben, je pense qu'il faut quand même peut-être rappeler que depuis que Theresa May a signé un accord avec l'Union européenne sur un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, cet accord qui a été rejeté trois fois par le Parlement parlementaire a donné lieu à des heures et des heures de débat au sein du Parlement. Il y a eu un nombre de votes sur différentes possibilités, différents types d'accords qui auraient pu être mis en place différents de celui que Theresa May avait signé avec l'Union européenne. Et à chaque fois, il y a eu une majorité contre chaque proposition qui a été faite. Et on est quand même dans une situation, depuis des mois, où ce Parlement britannique vote toujours contre. Et donc,
ils ne veulent pas du Brexit.
En fait, ils votent contre tout, c'est-à-dire en majorité. C'est-à-dire qu'ils votent en majorité contre un report du Brexit, ils votent en majorité contre un nouveau référendum, ils votent en majorité contre
des élections anticipées.
Et alors, on a depuis des mois Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, qui appelle Theresa May à la démission, enfin qui appelait donc Theresa May à la démission et demandait l'organisation d'élections
anticipées.
Et donc là, on se retrouve dans un nouveau paradoxe britannique où en fait Boris Johnson arrive à la tête du parti conservateur et Premier ministre, propose l'organisation d'élections anticipées, c'est vraiment justement la réponse à la question qui est posée depuis Jeremy Corbyn depuis des mois. Et à ce moment-là, que fait Jeremy Corbyn? Que fait le Parti travailliste? Il dit non, on ne veut pas d'élections anticipées.
Ils ne veulent pas que le peuple se prononce. Ils ne veulent pas.
Et donc, en fait, on est dans une situation de blocage en fait permanent au
c'est
niveau
la classe dirigeante contre le peuple.
Pas uniquement. Je pense que véritablement, moi, je dirais qu'il y a une telle division au sein des Britanniques eux-mêmes et au sein du Parlement sur ce qu'il faut faire par rapport à l'Union européenne. Est-ce qu'il faut rester dans l'Union européenne? Est-ce qu'il faut sortir? Et si on sort, est-ce qu'il faut aller vers un modèle plus libéral? Ce que souhaite une partie des Brexiteurs,
encore
qu'on appelle
question,
les hard Brexiteurs.
Ouais.
Oui, mais c'est la question aussi de fond derrière. Parce que pour quelqu'un comme Jeremy Corbyn, aujourd'hui, l'argument qui est donné, c'est de dire non, nous ne souhaitons pas d'un Brexit organisé par Boris Johnson parce qu'on irait vers une économie britannique encore plus libérale qu'aujourd'hui. Donc derrière cette question du Brexit, il y a aussi toute la question de la politique économique britannique.
On va revenir sur le dossier sortira, sortira pas. Pour mettre de l'huile sur le feu, je vous propose d'écouter du post-punk bouillonnant made in Oxford. C'est la signature du groupe Folds.
Ah ouais.
In Degrees, le titre est signé Falls, qui sort non pas un album, mais deux en 2019. Deuxième round attendu pour cet automne, la programmation Two or Nothing de GBOD Bear.
L'accord de retrait n'est pas négociable.
Il est temps que cette situation s'arrête.
La solution à l'impasse actuelle, elle est à Londres.
Le nouveau rendez-vous.
As expected. Comme on s'y attendait, le président Juncker ne veut pas rouvrir la négociation.
Qu'un discours seul ne déclenche pas des négociations.
Laurent Goumard.
On ne pourra pas vivre dans la perpétuité de la sortie du Brexit. À un moment donné, il y a une sortie.
La Chambre des communes a voté à maintes reprises pour quitter l'Union européenne, mais elle a aussi voté à maintes reprises pour repousser cette sortie.
Sur France Inter.
C'est non, on ne va pas recommencer tous les trois mois.
C'est vrai qu'à un moment donné, une porte doit être ouverte ou fermée. Alors tu restes ou tu sors. Dans cette tragique comédie, les acteurs sont, on vient de les entendre, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, Theresa May, Jean-Claude Juncker et Boris Johnson. Et nos invités Brexit ce soir, Catherine Mathieu, économiste, Emmanuel Avril, l'auteur de Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après, l'essayiste Guillaume Bigot et Sacha Mitchell qui est journaliste au Courrier International. Alors, qui est responsable de cet échec? Il y en a plusieurs, Christophe Boursier.
Pas moi. Moi, je pense qu'il n'y a pour rien, vous non plus, du reste Laurent. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les Anglais ont voulu à ce point-là, plus de 51%, quitter cette Union européenne. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons sans doute. Il y a le fait qu'ils ont eu l'impression que l'Europe ne leur apportait pas la prospérité économique qu'ils espéraient. Il y a aussi un sentiment d'insécurité en Grande-Bretagne qui est peut-être accru par l'ouverture des frontières. Et notamment, il faut se mettre du point de vue des Anglais par les migrants, le siège des migrants, puisqu'ils se sentent, pour évidemment les plus xénophobes d'entre eux, assiégés par les migrants qui sont à Calais et qui ne rêvent que d'aller en Grande-Bretagne. Mais alors, comment on peut expliquer, Sacha Mitchell, ce rejet massif de l'Angleterre, ce refus de l'Europe?
Alors, toutes les enquêtes d'opinion, les sondages qui ont été réalisés après le Brexit montraient qu'en fait, l'immigration, elle n'était pas la raison principale qui m'a motivé le Brexit. En premier lieu, elle était très proche de la première place. Elle était deuxième ou troisième derrière la souveraineté. En fait, c'était vraiment la question de la reprise de la souveraineté. Cette souveraineté qui aurait été perdue au profit de Bruxelles et qu'on voudrait ramener. C'est-à-dire que toutes les lois qui régissent la société britannique soient réalisées à Westminster et donc sous le contrôle direct des électeurs et des Britanniques, et non de manière lointaine, en tout cas à Bruxelles.
C'est d'autant plus étrange que les Anglais bénéficiaient de leur propre heure, ils ont toujours leur propre heure, que les Anglais ont gardé leur monnaie.
Ils étaient les grands bénéficiaires de la politique même qui était menée, notamment en termes d'agriculture, non ?
Pardon.
Emmanuel Avril.
Il y a une grande incompréhension en fait de la part de larges sections de la population britannique qui n'ont pas vraiment été éduquées comme les petits Français par exemple.
Pas plus hein, ici par rapport à l'Europe, pas plus hein, quand
un
on voit le vote.
Un petit peu quand même. Disons, il y a aussi eu un peu un refus de la classe politique, même la plus pro-européenne, de se mouiller sur ce dossier. Il y a aussi une presse réceptive qui alimente.
Donc vous dénoncez le rôle dans votre livre. Ah, oui. Vous en parlez longuement de cette presse britannique. Vous dites que la presse en Angleterre donne des consignes de vote.
Tout à fait, oui, c'est une presse partisane. Alors c'est tout à fait correct et normal d'avoir une ligne éditoriale. Hein, mais là, on a vraiment des positionnements qui sont parfois incendiaires.
Et puis parfois au bord de la diffamation. Par exemple, le Daily Express qui titre le 16 mai 2016, le coût de la scolarisation des enfants migrants explose, une facture de 3 milliards de livres, une autre bonne raison de quitter l'Union européenne. C'est absolument faux en plus.
Oui. Et alors donc les corrections apparaissent, mais elles apparaissent en tout petit.
De toute façon, elles n'intéressent plus personne généralement. Ce que l'on relaie, c'est les fake news et non pas les bonnes nouvelles.
Sacha Mitchell, c'est vous qui êtes journaliste anglais. Elle est ordurière, la presse britannique.
Alors justement, sur les entre guillemets fake news à propos de l'Union européenne ou en tout cas sur ces faits qui sont un petit peu tordus. Ce qui est assez cocasse, c'est que à l'époque, au début des années 90, il y avait à Bruxelles un jeune correspondant pour The Daily Telegraph, pour The Times, qui s'appelait Boris Johnson. Qui a un peu fourbi ses armes, en tout cas, dans la presse, à Bruxelles, en se délectant justement des petites phrases qui étaient prononcées dans le microcosme, dans la bulle en tout cas de Bruxelles. Et il a dit lui-même qu'il avait l'impression que c'était un vrai plaisir. C'était comme de lancer une pierre et d'entendre chez le voisin et donc du coup au Royaume-Uni et d'entendre le fracas de la serre. Et donc c'était l'effet que donnait, en tout cas, qu'avaient ces papiers sur ces articles sur l'opinion publique britannique. Donc là, on est en train d'assister. Il a en quelque sorte les moyens de boucler la boucle entre le début des années 90 et les prémices vraiment de l'euroscepticisme, en tout cas de la montée de l'euroscepticisme au sein du Parti conservateur et donc maintenant le Brexit.
Catherine Mathieu.
Oui, j'ajouterais en fait que dès le début, dès que le Royaume-Uni est entré dans la communauté économique européenne, les Britanniques ont été hostiles à toute forme d'intégration économique et politique, d'intégration politique avec l'Union européenne. Et ce que vous rappeliez à l'instant, Sacha Mitchell, le point de souveraineté est quelque chose de très important chez les Britanniques depuis toujours. Et donc, en fait, effectivement, les Britanniques sont entrés dans un marché commun. Ça correspondait tout à fait à la tradition libérale britannique d'échanger, d'avoir des libres échanges de marchandises, de services, de capitaux. Ça convenait très bien aux Britanniques. Mais quand, à l'intérieur de l'Union européenne, un certain nombre de pays, à commencer par la France et l'Allemagne, ont décidé d'aller vers davantage d'intégration politique, ça n'a pas du tout convenu aux Britanniques. Et ils ont réussi effectivement à obtenir le fait de ne pas entrer dans la zone euro, de garder leur monnaie, de garder aussi la main sur leur politique budgétaire. Mais ils ont joué, si on peut dire, le jeu, la règle des quatre libertés dites fondamentales de l'Union européenne, donc liberté de circulation du capital,
des services, des personnes.
Des personnes. Et en fait, cela... Ils ont été un des seuls pays à le faire. En 2004, quand il y a eu l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale, seuls le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède ont accepté de maintenir cette liberté, alors que nous, à l'intérieur de l'Union européenne, on mettait des restrictions aux frontières. Et donc, en fait, cet élément est de ce fait. Un nombre important de travailleurs de pays d'Europe centrale et orientale sont allés au Royaume-Uni, qui... Par ailleurs, était à cette époque une économie qui avait une croissance dynamique, qui avait besoin de main-d'œuvre. Et très probablement, il y a eu, sur le plan psychologique, chez un certain nombre de Britanniques, le fait que cette arrivée, entre guillemets, massive de travailleurs d'Europe centrale et orientale était un peu trop rapide. Et dans l'argumentaire du référendum de 2016 sur le fait que les Britanniques souhaitaient, du moins ceux en faveur d'un Brexit, reprendre le contrôle, cette question a pris de l'importance. Et David Cameron, avant d'organiser le référendum, avait négocié pendant de nombreux mois avec l'Union européenne déjà pour remettre en cause cette liberté de circulation des travailleurs pour le Royaume-Uni. Et il avait partiellement réussi en obtenant une exemption pour quelques années, mais pas pour toujours, puisque ça correspond pas au cadre de l'Union européenne. Et en fait, la discussion ensuite, dans le cadre du référendum, c'est cristallisé autour de cette question, mais de façon plus générale, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est l'argument de la souveraineté en général qui est important pour les Britanniques.
Alors, dans la question qui est responsable de cet échec, on vient de parler des Anglais, mais les Européens ne sont pas non plus tout blancs dans cette histoire, parce que manifestement, ils parient sur et ils attendent la division des Britanniques sur le sujet, persuadés par exemple que le coût du no deal serait trop important pour l'économie du Royaume-Uni. Guillaume Bigot.
Oui, et puis au-delà d'ailleurs, ils attendent également la fracture, la déchirure de l'acte d'union entre l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Mais je laisse vraiment merci d'avoir rappelé cette vérité parce qu'elle est systématiquement occultée. C'est-à-dire, en fait, à l'origine du vote lui-même et de l'organisation du référendum, il y a la demande de James Cameron consistant à aller voir la commission de Bruxelles leur disant « on ne peut plus à supporter qu'il y ait autant de travailleurs détachés. Alors, il y a un prisme social quand on dit les gens ne tolèrent pas, mais c'est pas ça. C'est quand vous êtes un ouvrier et vous voyez des gens, des maçons et des gens qui viennent et qui payent et qui sont payés un tiers de ce que vous êtes payé, sinon c'est une concurrence absolument insupportable et déloyale. C'est pas que les gens sont nécessairement xénophobes, simplement c'est une concurrence déloyale. Donc Cameron a été voir la commission de Bruxelles. La commission de Bruxelles a opposé une fin de non-recevoir et il a menacé dans le cadre des négociations avec la Commission, d'organiser un référendum. Et comme il n'a pas eu gain de cause, alors que Cameron lui-même était pour le, non pas pour le départ, mais pour le maintien de la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Union européenne, il a tout de même tenu parole et organisé ce référendum. Voilà ce qui s'est passé. Et il y a un autre phénomène historique, à mon avis, plus sous-jacent et plus profond, ce qu'on appelle la souveraineté. En fait, c'est ce qu'on appelle en français la démocratie. La démocratie directe. Vous votez pour des gens qui sont politiquement responsables et qui vous rendent des comptes. Je vous signale qu'en Grande-Bretagne, il n'y a jamais eu de drapeau à swastika. La Grande-Bretagne, la démocratie britannique n'a jamais péché d'une certaine façon. C'est extrêmement important parce que si on en revient aux origines du projet de l'Union européenne, il y a une sorte de piscine purificatrice avec l'installation d'une sorte de despotisme éclairé que les peuples n'aient pas trop de pouvoir en direct. Qu'on organise une sorte de démocratie à deux étages et qu'on mette finalement un peu, je dirais pas en cage, faut pas exagérer, mais qu'on mette une espèce de camisole juridique assez forte autour des peuples pour pas qu'ils puissent décider tout et n'importe quoi. Mais les Britanniques ne sont pas dans cette idée, ils sont des démocrates, point.
Quel est le jeu des Européens aujourd'hui justement dans cet échec, d'après vous ?
Bien, les Européens sont bien ennuyés parce que...
Selon David Kella dans le Figaro, là, le 30 juillet, en se montrant inflexible, les Européens jouent clairement le jeu de la division britannique. C'est David Kella qui le dit.
Bah, bien sûr, parce que, enfin, pour l'Union Européenne...
Ils ne sont pas si embêtés, apparemment. Il y a presque l'idée d'un Brexit punitif là, derrière ça.
Alors ça, oui.
Ils l'ont dit, d'ailleurs.
Bah, du moins, ce n'est pas ce que dit l'Union européenne enfin, en tout cas, là, parmi les négociateurs de l'Union européenne sur le Brexit. Mais il y a quand même le souhait, et ça, Michel Barnier l'a dit, que le Brexit ne soit pas un succès pour l'économie britannique. Hein. Parce qu'effectivement,
pas avoir l'argent du beurre et le beurre.
Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et obtient ce qu'il souhaite, enfin ce qui était au départ en fait le projet du Royaume-Uni en intégrant la communauté économique européenne, simplement échanger, avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne.
Avec le reste du monde.
Et avec le reste du monde.
Il gagnerait sur tous les terrains.
Ça permettrait, je ne sais pas s'il gagnerait sur tous les terrains, mais en tout cas, ça lui rendrait effectivement plus de souveraineté dans ses décisions économiques et politiques. Et ça pourrait surtout, du point de vue de l'Union européenne, c'est le risque principal que d'autres pays pourraient être tentés de sortir en disant mais après tout si le Royaume-Uni a pu sortir et que son économie se porte bien parce que la discussion se porte souvent sur les effets économiques, nous pourrions sortir. Et donc du point de vue de l'Union européenne, il y a quand même ce point qui est très important et de dire attention, il ne faut pas que le Royaume-Uni réussisse dans sa sortie pour éviter que l'Union européenne
On risque même de recréer une guerre entre les deux Irlandes.
On ne sait pas. Je pense que non. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a. Il faut bien comprendre la disproportion aussi qu'il y a entre la position de l'Union européenne, qui est à mon sens complètement, je suis à nouveau d'accord avec vous, guidée par la volonté de faire un exemple et de faire en sorte que ce dispositif qui permet de sortir ne puisse pas être facilement activé. Et donc, il faut que ce soit punitif. Ça, c'est certain. Parce qu'en fait, il y a quand même une disproportion incroyable entre, disons, les inconvénients très limités, si on raisonne à l'échelle de l'Union européenne, que représenterait, par exemple, le maintien d'une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste d'Irlande, et la question très grave pour les Britanniques, qui serait de rallumer, en fait, la guerre entre les deux Irlandes. L'enjeu est beaucoup plus lourd du point de vue des Britanniques et du point de vue des Irlandais d'ailleurs que du point de vue de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est essentiellement une affaire de principe. C'est qu'ils ne veulent absolument pas dissocier ces différentes libertés. En réalité, de quoi s'agit-il concrètement ? Eh bien, vous pourriez installer finalement une frontière pour les biens, les services, une espèce de frontière économique, alors que vous laisseriez les personnes passer. Mais ça, ils n'en veulent absolument pas à Bruxelles pour des raisons de principe. En réalité, c'est un prétexte. Ils veulent absolument casser les pieds de la Grande-Bretagne et de faire en sorte que les Anglais, le peuple anglais soit puni.
Alors, je vous propose d'aller à la cour d'Angleterre avec la nouvelle princesse de la soul anglaise. Et oui, on n'est pas du tout dans la cour de la reine. Lui, c'est le roi du ragatone nigérian, Georgia Smith et Burna Boy dans le NRV.
Mais il est anglophone, Georgia Smith. I know you want me. Every day not only when you're lonely. You see, you think you know me. But you don't even know nothing about me. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, scold you, split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want it.
come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just please don't waste my time. Be honest, you want it. But I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want it. But I can be heartless, regardless of my conscience.
People, they talk their majesty. About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make me know they waste time. Girl, I never lied, you already know I
be honest.
C'est la deuxième collaboration du duo le plus chaud du moment. Georgia Smith et le bien nommé Burna Boy. Brexit le classien, je cite la couverture du nouveau numéro de Courrier International où vous travaillez, Sacha Mitchell. À vos côtés, Guillaume Bigot, essayiste, Emmanuel Avril, professeur de civilisation britannique, mais surtout co-auteur de Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après. Et enfin, Catherine Mathieu, économiste, spécialiste de la Grande-Bretagne. Et avec nous aussi, bien sûr, Christophe Bourseiller. Juste une question par rapport à l'après. Que va-t-il devenir? Qu'est-ce que l'Union européenne a à perdre avec le Brexit? Je pose cette question parce que je sais qu'elle est prête à débloquer un fonds de solidarité, 600 millions d'euros pour aider les pays pénalisés par le Brexit, qui seraient la France, notamment pour les pêcheurs et les agriculteurs, l'Allemagne, l'Irlande, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas.
Oui, alors,
Catherine Mathieu.
Tout dépend de la façon dont le Brexit se fera. Alors effectivement, si on se place dans le cas où il y a une sortie sans accord du Royaume-Uni, première chose possible, c'est du côté de la pêche, en tout cas, et ça, ce serait même une chose certaine, les Britanniques reprennent le contrôle de leurs eaux territoriales. L'essentiel de nos zones de pêche se trouve dans les zones de pêche britanniques. Et donc, pour les pêcheurs français, belges, néerlandais, danois, ça serait effectivement une lourde perte.
D'où
et
une
donc,
indemnisation
c'est pour
du
ça
fonds,
que la Commission européenne prévoit déjà, effectivement, d'aider le secteur de la pêche en cas de Brexit dur. Pour les agriculteurs, alors tout dépendrait des secteurs, mais ce qui se passerait en cas de Brexit sans accord, en principe, c'est qu'on remettrait en place des droits de douane selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et ces droits de douane sont particulièrement élevés dans les secteurs agricoles. Ils peuvent atteindre 50% pour certaines céréales et pour la viande. Et donc, en fait, pour nos céréaliers, par exemple, ça voudrait dire tout de suite une augmentation des prix des exportations vers le Royaume-Uni. Donc, il faut aussi prendre des mesures pour cela. Alors, du côté britannique, il y aurait de même, en principe, donc la mise en place de droits de douane à l'importation. Alors, aujourd'hui, qui serait pénalisé ou qui en bénéficierait côté britannique? Eh bien, il y aurait surtout les éleveurs de moutons au Pays de Galles qui exportent énormément vers l'Union européenne, qui seraient pénalisés par un Brexit dur, et puis les exportateurs d'orge. Mais globalement, le Royaume-Uni importe davantage de produits agricoles qu'il n'en exporte. Alors, pour l'Union européenne, à court terme, il y a effectivement ses coûts en matière agricole. Il y a, à moyen terme, si on n'arrive pas à mettre en place un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne une fois qu'il sera sorti, le retour possible de droits de douane aussi sur les produits industriels. Et ces droits de douane sont d'à peu près 10%. Donc là, on arrive à des montants qui sont un peu plus raisonnables. Ouais. Ben non, moins élevés que dans l'agriculture. Et puis du côté britannique, surtout, le gouvernement a dit « Nous ne mettrons pas en place de droits de douane sur les produits industriels qui entrent, par exemple, dans la composition des voitures, puisqu'il y a toutes des chaînes de production qui sont très intégrées dans le secteur automobile. Et donc déjà, les Britanniques envoient le signal, nous, on ne pénalisera pas nos producteurs ni les exportateurs de l'Union européenne vers le Royaume-Uni.
C'est Michel.
Et oui, non, c'est pour ça que l'Irlande observe tout ça avec appréhension. Notamment l'éventuel retour d'une frontière dure, mais aussi du coup des droits de douane, notamment pour le secteur agricole, parce que le secteur agricole en Irlande pèse lourd dans le PIB, sachant quand même que l'Irlande importe 24% de ses biens du Royaume-Uni et exporte 12% de ses biens au Royaume-Uni. Et juste, effectivement, le Royaume-Uni apporte 40% de sa nourriture.
Mais en cas de Brexit sans accord, alors Boris Johnson l'a dit, il l'a laissé entendre, il espère pouvoir s'appuyer sur un allié de poids qui est l'Amérique de Donald Trump. Est-ce que c'est un fantasme ou une réalité, Emmanuel Avril ?
Non, c'est pas... Il y a eu des discussions. Trump se montre particulièrement enthousiaste à cette idée. Mais on a beaucoup parlé de la qualité des produits qui seraient ainsi importés. En plus, il y a eu toute cette plaisanterie autour des poulets chlorés. Johnson qui a comparé Jeremy Corbyn à un poulet de cette nature pour souligner sa supposée lâcheté. Donc, il y a évidemment des standards qui seraient différents. Et donc ça peut effectivement...
Mais c'est-à-dire que peut-être pardon, Mathieu. Excusez-moi de vous interrompre, en fait Boris Johnson fait partie chez les conservateurs de ceux qui ont une vision très libérale du fonctionnement des économies. Donc depuis toujours, il est pour des accords de libre-échange. Évidemment, ce que l'Union européenne peut demander en termes de règles, de réglementation, ça n'est pas du tout dans son fonctionnement. Il souhaite vraiment... un Royaume-Uni très très libéral.
Dérégulé.
Donc de ce point est encore plus dérégulé qu'aujourd'hui effectivement.
Pour attirer les investisseurs étrangers, ouais.
Oui, et puis dans le fonctionnement simplement de dire voilà, pour lui les économies doivent fonctionner librement avec le moins d'intervention possible de l'État, le moins de réglementation possible. Sauf qu'effectivement sur ces sujets-là, il y a de nombreuses oppositions au Royaume-Uni et donc si Boris Johnson s'engageait dans une sortie sans accord et parvenait à le faire, ce qui a priori n'est pas possible étant donné le vote qui a eu lieu au Parlement britannique, mais s'il y avait une sortie sans accord, il y aurait, je pense, très probablement avec la prochaine majorité qui serait issue des élections, de fortes réticences pour aller vers un modèle très libéral.
Yumigo, qu'est-ce que vous pensez-vous du modèle économique prononcé par Boris Johnson, donc qui parie sur le soutien de Trump, il voudrait une relance économique qui serait financée par les déficits publics, une déréglementation pour attirer les investisseurs étrangers, mais on sait bien que ça ne peut pas marcher à ce moment-là, parce que par exemple, s'il y a les déficits publics, il va y avoir une dévaluation et puis ça va pas pouvoir marcher.
La dévaluation, c'est très bon quand vous exportez, puisque votre... C'est...
En fait, là... je veux dire plutôt un effondrement de la livre, oui.
Mais un effondrement de la livre, ça veut dire une explosion des exportations britanniques. C'est toute la question est là. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut qu'il y a un énorme problème de compétitivité en France. Il faut baisser les charges sociales. Donc ça veut dire baisser les salaires différés et détruire le système de sécurité sociale. Mais enfin, vous savez qu'en une nuit, si on n'était pas dans l'euro, en une nuit, on pourrait dévaluer le franc de 30%. Donc rétablir une compétitivité énorme en une nuit. Donc je ne suis pas certain du tout que ce soit
Donc c'est
perdant.
Un bon programme économique. Ouais.
Écoutez, moi je pense que Johnson et les autres conservateurs, Trump y compris, ne peuvent pas tomber dans ce qu'il dénonce. Je les suis sur le point démocratique, c'est-à-dire sur le fait que c'est la première fois après l'Union soviétique qu'on a gravé dans le marbre des constitutions, qu'on a constitutionnalisé une doctrine économique ou un choix de politique économique. Donc ça, ce n'est pas normal de dire finalement vous pouvez plus toucher le volant est bloqué parce que c'est la constitution, les traités, etc. Ça, c'est une aberration. Et que les Britanniques veuillent faire sauter ça, c'est tout à fait normal, c'est un réflexe démocratique de peuple libre. En revanche, après, c'est le projet de Johnson, c'est le projet des conservateurs, mais je pense que la Grande-Bretagne, le peuple britannique est partagé. Il y a des tas de gens qui pensent comme ça, des tas de gens qui pensent autrement. Ce sera aux élections en Grande-Bretagne de déterminer quelles sera la politique macroéconomique de la Grande-Bretagne. Maintenant, si vous m'interrogez pour savoir si la Grande-Bretagne seule peut survivre, il faut être sérieux, sortir de la propagande massive qui nous est servie par Bruxelles. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Commonwealth, c'est presque 2,5 milliards de personnes. C'est colossal. Est-ce qu'on réalise, par exemple, le poids de la bourse de Londres ? La bourse de Londres est interconnectée avec la bourse de Shanghai, avec la bourse de Hong Kong, avec la bourse indienne. L'Inde, ça nous parle pas, mais l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Ils sont fortement connectés à l'économie britannique. britannique. Donc vous imaginez que si les Britanniques ne sont plus liés à cette espèce d'EHPAD historique qu'est l'Europe avec une croissance très molle, ils vont s'écrouler, mais c'est une blague.
C'est pour ça que d'ailleurs l'Union européenne ne veut pas se séparer de la troisième puissance européenne qui est l'Angleterre. Oui,
je voulais simplement dire quand même qu'il y a un paradoxe avec cette idée que le no deal, ça serait une sortie propre. Il n'y a pas de sortie, de coupure nette et sans bavure. Et cette idée qu'on va tourner la page, finissons-en, les gens en ont marre.
La Grande-Bretagne reste en Europe.
Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir détricoter, renégocier d'autres accords. Enfin, voilà, il y en a
beaucoup. Vous pensez que ça aura lieu
10 ou 20 ans.
Vous pensez qu'il y aura un Brexit, puisqu'on parle de demain?
Est-ce que ça va? Ça a déjà eu lieu. C'est ça qui est fou. C'est un déni. Mais en fait, voyez, écoutez, le peuple britannique s'est déjà prononcé en faveur du Brexit.
Mais maintenant, il s'agit de
le mettre en musique. De mettre en musique. Mais enfin, on commerce avec la Suisse, par exemple. Ils ne sont pas dans l'Union européenne. Ce n'est pas une catastrophe.
Absolument. La croyance, en tout cas, que le Royaume-Uni va s'en sortir et va très bien s'en sortir, elle est partagée par, en tout cas, beaucoup d'électeurs pro-Brexit. C'est aussi cela qui fait qu'il persiste dans cette voie. Quand on voit les reportages qui sont réalisés dans les rues britanniques, c'est par exemple des analogies avec la Deuxième Guerre mondiale qui reviennent beaucoup. On a survécu au bombardement allemand, on va s'en sortir, ça a été difficile, mais on va s'en sortir.
Et ça, survécu Hitler, c'est... il pourrait survivre à Merkel, hein, c'est
en
sûr.
Revanche, pour ce qui s'agit de la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, effectivement, une bonne partie de la presse estime que naturellement le Royaume-Uni est plus tourné vers les États-Unis et donc que c'est quelque chose de naturel qui va se faire la relation spéciale, absolument. Sauf que depuis quelques années, en tout cas depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les relations entre les deux pays, elles ont été assez fluctuantes, notamment entre Donald Trump et l'ancienne première ministre Theresa May. Il y a eu cet imbroglio autour de l'ouverture de la nouvelle ambassade américaine à Londres qui ne plaisait pas à Donald Trump. Depuis, il y a eu des escarmouches aussi concernant Huawei, concernant la position sur l'Iran. Donc, tout ça veut dire que pour le moment, en tout cas, Trump et Boris Johnson affichent une certaine proximité. Tout le monde voit chez eux une forme des jumeaux séparés à la naissance. Mais en tout cas,
c'est vrai que clairement, il y a quelque chose.
Clairement, voilà, par exemple.
Ils ont même coiffeur.
Oui, c'est vrai. C'est un point commun.
Donald Trump s'est bien entendu à chanter les louanges de pas mal de leaders mondiaux avant Boris Johnson, avant de subitement changer de.
Oui, il n'est pas fiable, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter.
On l'a bien vu avec Emmanuel Macron, oui. C'est je t'aime, moi non plus. Catherine Mathieu, vous allez finir le débat. J'attends de vous un mot de la
plaisir.
Fin.
Avec plaisir. Le mot de la fin, là, c'est difficile aujourd'hui parce que... Enfin,
il y aura un mot de la fin ici, même s'il n'y a pas de Brexit.
Le temps qui passe, plus le temps passe et en fait, plus on a de mal à voir quel type de sortie de l'Union européenne fera le Royaume-Uni et s'il sortira finalement. Et même aujourd'hui, et je pense, on sera tous d'accord autour de cette table, on est incapable de dire si demain le Royaume-Uni va rester ou pas. Moi, je pense que dans tous les cas, la meilleure solution serait de redonner la parole au peuple britannique pour des élections générales, que les différents partis britanniques se positionnent clairement sur ce qu'ils souhaitent par rapport au Brexit et qu'on remette à plat les choses pour faire une bonne fin.
Vive la démocratie.
Alors moi, j'ai un tout petit mot de la fin. Il est extrait du livre de Pauline Schnapper, Emmanuel Avril, où va le Royaume-Uni. Plus personne ne sait ce qu'est la Grande-Bretagne.
Ça, c'est vrai. Ça serait presque un prochain débat. Mais ouais, qu'est-ce que la Grande-Bretagne aujourd'hui? En tout cas, on sait ce qu'est la France.
Oui, monsieur.
C'est la révélation. On sait ce qu'est la France. On sait ce qu'est une chanteuse française.
La France, c'est Jeanne Chéral.
Oui, la France, c'est Jeanne Chéral.
Voilà, c'est ça. On a droit à un jingle quand même?
Ah bah oui, un jingle live.
Allez.
Sur France Inter.
Et tous nos invités mettent leur casque pour écouter la session live. J'autorise les auditeurs à faire la même chose chez eux, ça peut être beau.
De mettre leur casque aussi, devant. Bah ouais, pourquoi pas, on entend mieux. C'est le grand retour de Jeanne Chéral, 5 ans de silence discographique, mais je précise, discographique, pas scénique, pas artistique. On l'a vu, on l'a entendu célébrer Véronique Sanson avec son concert Amoureuse. On l'a entendu reprendre Barbara dans son spectacle Arba, c'était génial, avec le pianiste Bachar Makhalifé. Et au dernier Printemps de Bourges, moi j'ai eu la chance de la voir dire au revoir à Jacques Higelin. C'est un superbe concert hommage qui lui était rendu. Il y avait Isia, il y avait Arthur H, Camille, Rodolphe Burger, plein d'autres artistes. Et cette amitié avec le grand Jacques, Jeanne Chéral, elle lui a d'ailleurs inspiré une chanson vibrante.
comme un jardin d'été en plein cœur de la ville. Le sol était couvert de longues fleurs des champs, tel un bouquet vibrant. Assis en rond tout autour, nous t'attendions pour te parler d'amour. On s'est levé, tu es entré.
Vous savez ce qu'a marqué Guillaume Bigot à côté de moi sur sa petite sur sa petite feuille? Superbe voix. Et super, la même souligne.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, c'est la voix de Jeanne Chéral sur Un adieu. C'est un extrait de son nouvel album. Elle vient de fêter ses 40 ans. Et il semblerait que pour Jeanne Chéral, ce soit le bel âge pour dresser un autoportrait sensible, puissant, audacieux. L'an 40, c'est le titre de son nouvel album. Ça va sortir le 20 septembre prochain. Et ici, au Nouveau Rendez-vous, on a eu de la chance. On l'a écouté, déjà. Et on confirme, c'est pas du tout un disque de crise de la quarantaine. Non, c'est plutôt un disque de réaffirmation de soi, d'une musicienne qui oublie le jeu pour prendre le il ou le elle, pour mieux parler au nous. Jeanne Chéral aime toujours le piano, c'est toujours la colonne vertébrale de sa musique, même si elle est allée chercher de l'autre côté de l'Atlantique d'autres pulsations. Et d'ailleurs, Jeanne, j'avais envie de vous demander, c'est quoi ces pulsations que vous êtes allée chercher en Californie? J'ai entendu parler non pas d'un batteur, mais de deux batteurs.
Ouais, deux batteurs. J'aime bien les doublons. Non, mais c'est deux batteurs qui me faisaient fantasmer, qui ont notamment joué sur un album que j'adore de Fiona Apple, qui s'appelle When the Pound. J'avais envie de travailler avec eux. Enfin, c'était un rêve pour moi qui s'est réalisé. Puis j'avais envie de gospel aussi. Et
on en entend, ouais, sur certains titres.
Sur plusieurs chansons, une chorale gospel, c'était un moment génial, quoi, d'enregistrer avec eux.
Donc les États-Unis se sont invités dans cet album français.
Ouais, enregistré entre la France et la Californie. On va écouter tout de suite un titre en piano-voix, c'est l'an 40. Jeanne Chéral, c'est à vous.
De l'an 40.
merci beaucoup.
Super version, ouais, super. Piano voix de Jeanne Chéral, et cet extrait de son nouvel album L'An 40, du même nom, donc qui sortira le 20 septembre. Jeanne Chéral va être en concert un peu partout en France. Ça va commencer le 7 novembre à Taon. Il y aura Cébeza, il y aura Rouen, Besançon, Cherbourg, Nantes, et à Paris, ce sera au Folies Bergères le 3 décembre. La prise de son ce soir était assurée par Mathias Alléon et Théo Gomard.
Un grand merci à tous nos invités, Catherine Mathieu, Guillaume Bigot, Emmanuel Avril, je rappelle, Où va le Royaume-Uni, le Brexit, et après, aux éditions Odile Jacob et Sarah Mitchell. On vous retrouve dans les pages de Courrier International. Merci Christophe Bourseiller, on va se retrouver jeudi prochain. Ouais, oui. C'est très bien. Vous êtes très loin du micro.
Oui.
Ça m'étonne de vous.
Radio, c'est tout à l'heure.
C'est vraiment, vraiment, oui, devant, oui. Très loin, c'est parfait. C'était le Énervé, première partie. On va revenir dans 15 minutes après le journal. Mais au programme de demain, c'est quoi le sujet?
Il est venu le temps des cathédrales.
Vous adorez cette chanson, hein, Christophe.
Mon Dieu, quelle horreur.
Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre en péril, l'auto de Stéphane Bern, le nouveau Paris des compagnons du devoir. En live, Marion.
Eh bien, dis donc, Jeanne Chéral, le elle retour reste de avec Jeanne. Nous.
Exactement. Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de l'écouter. Dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation est signée Virginie Rosic. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal avec Pulp version Black Session au programme du NRV La Suite France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.